sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. Et prise de son assurée ce soir par Jean Frédérics, réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Emmanuel Giuliani, Marie Audroux et Emmanuel Dupuis. À notre programme Péléas et Mélisande de Claude Debussy par le LSO dirigé par Simon Rattle, mis en espace Peter Sellars. C'est en DVD et CD chez LSO Live et Philharmonie aussi sur le site VOD. Hein, on en reparlera de tout ça tout à l'heure. Notre Carmen d'après Bizet. C'est à l'affiche de l'Athénée, Théâtre Louis Jouvet, Brahms, The Piano Trios, je le fais à l'anglaise, hein, puisque les titres sont en anglais, Brahms. C'est interprété par Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax et Leonidas Kavakos chez Sonic Classical. Présent également Boris Pino, qui surveille d'ores et déjà le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le Festival du film d'histoire de Pessac, qui se tient du 20 au 27 novembre. Et nous ouvrons cette émission avec un DVD, celui de, et des CD aussi, ceux de la production de Péléas et Mélisande, mise en scène par Peter Sellars avec Sir Simon Rattle, dirigeant le London Symphony Orchestra. Pour rappel, Claude Debussy avait donc lu cette pièce de Maeterlinck dès sa publication. Il avait assisté à sa création au Bouffe Parisien en 1893. Il a demandé à Maeterlinck s'il pouvait adapter cette œuvre et la mettre en musique. Il le fit. Première le 30 avril 1902 à l'Opéra Comique, André Messager à la direction. Grand succès à Paris comme dans le monde entier. L'œuvre sera évidemment à l'affiche dans les années qui suivent. L'histoire, celle d'un impossible amour. Un mariage trop vite conclu entre Mélisande et Golo. Le coup de foudre réciproque de Mélisande pour Péléas, et donc réciproquement, Péléas étant son beau-frère, ces deux-là ne se disent pas leur amour, mais la perte d'une bague va aussi attiser les soupçons de Golo. Bref, tout ça va mal finir. Écoutons un extrait de cette production.
Tiens, où est la que je t'avais donnée? Mon os, où est-elle?
Je crois qu'elle est tombée.
Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue?
Oh, elle doit être tombée, mais je sais où elle est.
Où est-elle?
Vous savez bien. Des coquillages pour le petit Edmond. Il y en a de tous les mots, mais la fille c'est de mon doigt. Puis la mère est entrée, et je vais sortir avant de l'avoir trouvée.
Es-tu sûre que c'est là?
Oui, oui, tout à fait sûr, je l'ai senti glisser.
Faut aller la chercher tout de suite.
Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité.
Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. La mère viendra la prendre avant toi. Dépêche-toi.
Je n'osais pas en laisser.
Vas-y avec n'importe qui. Vas-y, faut y aller tout de suite. Entendu? Dépêche-toi. demande à Pélias d'y aller avec toi.
Pélias, mauvais Pélias, mais Pélias ne voudra pas.
Pélias fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Pélias mieux que toi. Vas-y, hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir.
Jusqu'au bout de cette, ces cordes, évidemment, du LSO. Alors déjà, bon, il faut que je récapitule. Moi, j'ai vu sur le site de la Philharmonique de Berlin, en VOD, cette mise en espace par Peter Sellars au cœur de cette salle de Berlin, avec la Philharmonie de Berlin et Sir Simon Rattel qui dirige cette production. Mais ici, nous allons parler un coffret CD dans lequel j'ai vu un Blu-ray, donc je pensais que c'était ça. Non, le Blu-ray contient l'intégralité de l'œuvre en audio seulement. Donc, et en plus, pour achever de pouvoir me tromper, c'est quelque chose qui a aussi été présenté au Barbican Center à Londres, et vous y étiez, Emmanuel Giuliani. Ça, c'était encore une troisième chose, puisqu'on a, on a ni l'un ni l'autre là.
Alors, je pense que scéniquement, il semble quand on voit la production berlinoise sur le Digital Concert, le site de la Philharmonie de Berlin, c'est vraiment très proche, adapté à la structure des salles, mais quand même très proche pour ce qui est de la mise en scène. Les interprètes étaient les mêmes, à la différence donc de l'orchestre,
oui, ce qui
puisque,
pas tout à fait rien.
Puisque voilà, puisque Simon Rattel passait de son ancien orchestre de Berlin à son nouvel orchestre, le LSO.
Oui. Voilà. Il y a un numéro 1, un numéro 2, en tout cas pour cette œuvre-là, selon vous, dans les orchestres.
Oh, non, c'est très, très,
parce que
c'est
des 1 et 1 bis, enfin, ils sont tellement, tellement prodigieux l'un et l'autre.
Oui. Mais oui, ce sont des orchestres qui aujourd'hui se valent, hein, je dirais. Bon, je n'ai pas entendu de différence, et en tout cas, pas de différence dans la conception musicale d'ensemble, de toute façon.
Marie Andreau ?
Oui, effectivement, on est vraiment dans un niveau d'excellence dans les deux cas, c'est vrai.
Bon.
Mais c'est intéressant d'aller voir quand même tous les spectateurs peuvent le faire, aller sur le site de la Philharmonie de Berlin et d'aller voir cette production quand même, parce qu'elle existe en DVD certes, mais elle est quand même visible. Bon, moyennant une somme relativement modique, je crois c'est 7 euros et quelques. Hein.
C'est 9 euros.
9 euros.
En fait.
Alors, il n'y a pas que moi qui m'embrouille. Ça me rassure un peu.
Mais on peut en parler parce que c'est intéressant. Alors, parce que le Philharmonique de Berlin filme absolument tous ses concerts. Et tous les concerts sont visibles sur le site du le Digital Concert Hall, donc. Et c'est une formule d'abonnement. Et pour 9,90€, je crois, vous avez, pendant une semaine, vous pouvez visionner absolument tout ce que vous
D'accord.
voulez.
Donc c'est, on peut voir 17 voilà. fois Pélias et Mélisande si on veut.
Exactement. C'est un mode de diffusion de la musique filmée auquel, bien entendu, il va falloir s'habituer dans les années qui viennent. Parce que, voilà, le DVD. Hein, et le Blu-ray sont des supports appelés à disparaître au profit de la VOD.
Mais c'est vrai que quelquefois, ils font des sorties physiques. On en a parlé ici, sur notamment les passions de Bach. Ouais. Là, ils ont choisi de ne pas le faire. Voilà. Je le regrette infiniment.
C'est fort dommage, parce que c'est quand même... c'est une production absolument magnifique.
Sublime.
Magnifique. Commencer Lars avec trois fois rien, trois néons plantés, une espèce de...
Au cœur de l'orchestre.
Au cœur de l'orchestre, un parallélépipède noir à la gauche du chef, avec une espèce de... une sorte de tombeau, hôtel sacrificiel, enfin on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin,
usage multiple.
Voilà, usage multiple. Et puis le passage au sein de l'orchestre, sur les praticables derrière, etc. Comment il arrive à faire que l'orchestre est complètement intégré dans la scénographie, ça c'est extraordinaire. Et comment, le travail de Sellars, c'est complètement sur les rapports entre les personnages. Et il fait de Mélisande une espèce d'objet du désir total, puisqu'elle passe son temps dans les bras de Golo, dans les bras de Pélias, dans les bras d'Arkel. Et le corps de Magdalena Kochena, donc qui chante le rôle de Mélisande, est constamment pris à partie, tripoté, caressé, violenté. Et on a vraiment l'impression que là, il y a une vision presque christique de ce personnage qui est pas... qui est pas si habitué, qui est pas si habituelle, parce que on a quand même vraiment plutôt des Mélisandes relativement évanescentes ou plus incarnées, ça dépend, mais on est dans une échelle où ça reste une espèce de symbole et une femme inatteignable. Et là, on est vraiment sur un rôle que où tous les hommes peuvent vraiment projeter leurs fantasmes et leurs désirs les plus violents. Et d'ailleurs, ils s'affrontent et les désirs s'affrontent au sein même du corps de Mélisande, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Pas tout à fait d'accord, Emmanuel Dupuis.
Pour moi, le personnage christique, c'est plutôt Golo, parce que c'est bon. En fait,
j'ai envie de dire, ils sont tous christiques quelque part.
Plus ou moins, moi, j'ai fait l'expérience un peu en sens inverse. J'ai commencé par écouter les CD et j'ai trouvé ça absolument fabuleux musicalement, notamment le degré de raffinement auquel parvient Rattle avec le lasso, comme plus tard avec les Berliners, c'est absolument époustouflant. Le seul qui était parvenu à un tel degré de raffinement, c'était Karajan, mais il y avait chez Karajan une forme d'hédonisme, alors que là, chez Rattle, il n'y a pas d'hédonisme. Au contraire, il y a dans l'orchestre même une tension dramatique absolument phénoménale. C'est vraiment un orchestre qui commente l'action en permanence, qui c'est pas simplement un accompagnateur, c'est vraiment le décor mental de l'opéra. Mais j'avais quelques réserves sur la distribution. Alors j'ai trouvé Gérald Finlay qui chante Golo absolument bouleversant, mais j'avais quelques réserves sur Magdalena Kozena et Christian Guerraer qui chantent Mélisande et Pélias. Bon, pour tout dire, je l'ai trouvé un peu trop mûr pour incarner ces personnages. Et quand ensuite j'ai regardé la vidéo du spectacle de Sellars, ces réserves sont totalement tombées, parce que ce défaut, la maturité des interprètes, Sellars en fait une force, enfin, où il transforme ce défaut en force, en faisant de Pélas et Mélisande des personnages, certes assez mûrs, mais totalement immatures psychologiquement, pas très sympathiques, très narcissique finalement, parce que finalement ils ne pensent qu'à eux. La Mélisande de Magdalena Kozena, elle m'a fait penser au personnage de grande névrosée qu'on croise dans les films d'Hitchcock, et comme ça, et qui entraîne tout le monde dans leur névrose. Et pour moi, la grande victime, c'est Golo. Et le regard compassionnel que Sellars porte sur Golo, c'est vraiment bouleversant.
Alors peut-être qu'on commence par un souvenir de la salle, vu et entendu depuis la salle, Emmanuel Giuliani.
Oui, c'était tout à fait ça. Alors c'est vrai que la présence des chanteurs-acteurs, vraiment, parce que c'est vrai que Sellars, avec cette gestuelle à la fois stylisée et hyper expressive, les deux vraiment en même temps, et tout ce que vous avez dit, Marie-Odé et Emmanuel, était vraiment évidemment très sensible. Et puis le fait qu'ils évoluent entre eux et au milieu de l'orchestre faisait que cet orchestre était non seulement le paysage mental, mais aussi le paysage physique. C'était cette forêt épaisse, c'était cette, je ne sais plus ce qu'il dit, cette rosée de plomb et cette pâte épaisse quand ils vont dans la grotte. C'était tantôt l'obscurité, tantôt la lumière, mais vraiment, on l'avait comme ça, et on sentait à quel point, même si on le sait déjà tout à fait théoriquement, mais on le vivait de manière palpable, combien orchestre et voix sont vraiment composent la matière et la texture de ce Pélias de manière absolument extraordinaire, et aussi par le rapport qu'avaient les voix selon qu'elles s'éloignent ou qu'elles s'approchent avec l'orchestre, qu'elles sont dans l'orchestre, devant l'orchestre, derrière, et c'était joué avec une subtilité extraordinaire. Et c'est vrai que scéniquement, ce que vous dites sur Golo, le regard compassionnel sur Golo, est très présent aussi avec, grâce aux personnages plus âgés de Geneviève et d'Arquet, avec une présence de ces personnages même dans les scènes où ils ne sont pas, parfois une présence lointaine, alors que Geneviève, musicalement, elle disparaît très vite. Elle a une des plus belles choses de l'opéra avec la lettre, mais elle disparaît très vite, et là elle était encore présente, et on sentait toute cette espèce de cocon qui se voudrait protecteur, mais qui en fait reproduit, et on sent que les générations suivantes ce sera pareil, parce que c'est vrai que tous les hommes sont pris comme des satellites autour de ce soleil noir Mélisande. Ignold également. Bien Il y a sûr. Aussi oui, un investissement oui. du personnage du petit Ignold.
Qui est chanté par un jeune garçon, voilà, et pas par un soprano.
Et ça aussi, c'est prenant. Et c'est terrible, parce qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, les victimes suivantes, la pauvre petite également, la fille de Mélisande à la fin. Mais voilà, donc la manière dont tout ça va se répéter, c'est sublime et horrible en même temps. C'est vraiment exceptionnel.
Il y a une noirceur qui est très frappante, parce que souvent, il y a quand même des étagements de lumière dans Péléas. Et là, même les parties lumineuses, par exemple la scène de la fontaine ou quand on la sortie des grottes, et c'est quelque chose qui est tellement imprégné de drame que la tension est toujours là. Et même dans les choses plus légères, on sent qu'il y a des vapeurs souterraines, qu'il y a quelque chose de fuligineux qui est extrêmement... vraiment la pâte empoisonnée dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Et c'est vrai que je trouve aussi que Rattle a une direction qui va vraiment qui s'insinue jusque dans les coins les plus reculés, on peut dire, à la fois de l'explosion et aussi de l'intériorité. Ça, c'est vraiment, pour le coup, moi j'ai été bouleversée aussi par l'orchestre, bouleversée aussi par les interprètes. C'est vrai, je suis d'accord avec Emmanuel, que le fait qu'ils aient un peu tous le même âge, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence entre Golo et Péléas, d'ailleurs. Ça pourrait presque être des jumeaux. Et ça rajoute justement à cette espèce de duel fratricide entre eux. Et puis même Merkel, qui finalement est relativement jeune aussi, qui pourrait être un vieux, quelqu'un, enfin un troisième frère paralysé, ou je ne sais pas, ou empêché, qui finalement... Donc il y a vraiment... Il n'y a plus cet étiage des âges, il n'y a pas la jeunesse, la vieillesse, etc. Il y a une espèce d'énorme trou noir dans lequel l'être humain, avec tout ce qu'il a, toute sa diversité finalement, qui est symbolisée par ces personnages, ben, se débat, et puis voilà, pour quelque chose qui finalement aboutit au rien ou à la mort. Mais et ça, c'est vraiment quelque chose que Sellars a très bien saisi. Rattle est magistral aussi. Et il faut aussi dire que ses interprètes ont tous un français extraordinaire. Il n'y a pas un français dans la distribution. Et tout est absolument audible et compréhensible. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Et même Dupuis.
Oui, non, je ne peux qu'adhérer. Mais c'est un théâtre qui joue uniquement sur la dimension physique, puisque, comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment de décor. Mais à un point, c'est époustouflant. La scène du souterrain, par exemple, enfin, on a peur, quoi. On se dit que Gérald Finlay, avec sa carrière de rugbyman, va casser la figure à Christian Guerrière qui chante Péléas, parce qu'il y a une telle tension. Et la scène avec le petit ignoble, c'est ignoble, je ne vais pas y arriver.
Elle est d'une cruauté.
C'est d'une cruauté.
On croit que c'est fini, puis ça recommence. Voilà. Il va faire pire
C'est la torture. Quoi.
Et d'ailleurs, le fait d'avoir, dans la deuxième partie de la scène, quand Golo se trouve au-dessus de son fils, alors là, ça devient carrément, c'est Jéhovah qui est en train de punir. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a des moments un peu plus amusants. Par exemple, quand elle, dans la chanson de la tour, quand elle sente Saint Daniel, elle se touche les seins en même temps.
C'est horrible.
Il y a des choses complètement... c'est vraiment un travail remarquable.
Alors, et pour le coup, j'ai oublié de le noter, et puis comme la semaine prenant fin, l'abonnement étant fini, bref, j'ai pas noté le nom du réalisateur, parce que il fallait que ce soit bien filmé, et c'est le cas, parce qu'effectivement, il nous permet de suivre et d'oublier par moments l'orchestre quand on a besoin de se concentrer sur une action dramatique, et c'est vraiment très intelligemment fait. C'est pas si simple de filmer des chanteurs au sein d'un orchestre.
Dans cet espace.
Il réussit vraiment très très bien. Et ces quelques néons, ils ont une force alors que c'est rien du tout. Hein, c'est des néons sur pied, de couleur. Avec trois fois rien, vous le disiez en ouverture, Marie-Audroux, il arrive à vraiment donner des émotions, des intentions qui
le
sont
très
claires.
Le fait que les personnages soient tous en noir aussi, donc comme les musiciens de l'orchestre, donc il n'y a pas les chanteurs et les musiciens. Enfin, vraiment, c'est
un mélange. Alors justement, Emmanuel Giuliani, comme vous l'aviez vu depuis la salle, est-ce que vous avez retrouvé, que ce soit sur disque ou sur la vidéo de Berlin, est-ce que vous avez retrouvé l'intensité que vous avez connue de la salle?
En fait,
est-ce que vous avez, malgré la perte normale.
Oui. Et notamment grâce justement à la parfaite, là je parle du disque, à la parfaite
prise de son,
à la parfaite diction. Ah, mais au-delà de la diction, ils disent bien, mais on sent tellement qu'ils le comprennent et qu'ils ont l'arche de la phrase. Et puis quelque chose que peut-être j'ai encore plus ressenti au disque qu'en vrai, c'est la manière dont Rattle fait les transitions entre les scènes, fait les fins de phrases, qu'il les suspende ou qu'au contraire elles tombent comme une espèce de, là aussi, de pâte comme ça qui... Et c'est absolument éblouissant. Et je me rappelle qu'à ce micro, on avait parlé l'année dernière de ses symphonies de Beethoven. On est dans un tout autre univers. Mais il atteint actuellement, Simon Rattle, vraiment dans des répertoires très différents. À la fois une maîtrise, une profondeur, une émotion et une façon, c'est ça, de porter la musique jusqu'au bout des notes et au-delà, qui est vraiment rare et qui mérite d'être souligné et ressouligné, me semble-t-il.
Un petit pépiment, Boris Pino.
Oui, sur Twitter, le Curieux des Arts rend hommage à l'œuvre de Debussy, le plus beau des opéras totalement inclassable et intemporel, comme une drogue. Plus on l'écoute et plus on en redemande, il se souvient des mises en scène d'Éric Ruff au Théâtre des Champs-Élysées, celle de Robert Wilson à l'Opéra de Paris. Et Maya, quant à elle, évoque la mise en scène de Peter Brook, c'était Impression de Péléas au Bouffe du Nord.
Ah oui.
Ah, vous avez. Alors, c'est vrai que. Parlons de, peut-être de Bob Wilson, mais peut-être de Peter Brook aussi, des choses très différentes. C'est un opéra quand même qui permet au metteur en scène de livrer une vision absolument personnelle. Et on a l'impression à chaque fois en respectant absolument le drame. Ça, c'est le génie de Metterlinck peut-être aussi.
Et puis, mais c'est Giuliani. Tellement mystérieux. Oui. On ne sait tellement pas d'où viennent, d'ailleurs, on ne sait pas ni d'où elle vient, ni qui elle est, etc. D'où viennent les personnages, où ils vont aller, on sent que ça va aller en effet vers le drame. Mais encore, Golo va sans doute mourir lui aussi après, mais il va se suicider, il va se laisser mourir. Enfin, on ne le sait pas non plus. La fameuse pauvre petite, la fille de Mélisande et Golo Carquel prend dans ses bras. C'est à son tour, mais à son tour de quoi? De recommencer cette histoire lamentable ou peut-être d'essayer d'en sortir. Geneviève, qu'est-ce qu'elle va devenir? On ne sait pas non plus. Donc voilà, il y a un mystère profond, un mystère dans leur relation également. Je pense que chacun peut vraiment y mettre oui ce qu'il veut à partir du moment où il a du talent et voilà.
Oui, mais ça permet à certains très grands de faire des mises en scène particulièrement remarquables.
Et puis ça permet aux gens qui ont eu un grand univers esthétique et poétique vraiment de le déployer et de se reposer sur cette musique qui est tellement sublime.
C'est le cas de Bob Wilson, moi, pour moi, voilà. C'est vraiment sa plus belle production.
Et qui ça ouvre vraiment les portes du rêve, ça c'est sûr.
Emmanuel Dupuis ?
Oui, non, mais c'est un chef-d'œuvre à tous les points de vue, que ce soit musical ou théâtral, donc du coup, effectivement, il y a quelques...
Qu'on ait un grand metteur en scène.
Il y a quelques chefs-d'œuvre comme ça dans l'histoire de l'opéra, Wozzeck, de Berg, par exemple, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, tous les grands metteurs en scène... Se sont attaqués à Wozzeck souvent avec beaucoup, beaucoup de succès. Et Péléas fait partie de ces chefs-d'œuvre absolus qui acceptent beaucoup de lectures différentes. Mais pour revenir à celle de Sellars, on l'a dit, c'est fait avec trois fois rien. Et pourtant, honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment un des plus beaux Péléas que j'ai jamais vu, un des plus bouleversants en tout cas. Il y a une vérité. Une vérité de chaque instant, et voilà, c'est encore une preuve des pouvoirs sorciers de Sellars.
Marie Audreau, pour finir.
Non, je pense aussi que cette pièce, effectivement, comme on disait, est suffisamment mystérieuse pour permettre à chacun de déployer son propre imaginaire, mais suffisamment structurée pour qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est le chef-d'œuvre dont on parlait tout à l'heure.
Péléas et Mélisande. Alors, si je récapitule, il y a le coffret CD qui sort. Alors, CD et un Blu-ray audio, j'ai bien compris maintenant, avec le LSO. On peut voir sur le site de la Philharmonie de Berlin mise en scène, mise en espace de Peter Sellars. C'est cette fois Simon Rattle, qui est le chef dans les deux cas, dirige le Philharmonique de Berlin. Assure dans la dispute notre Carmen et Yo-Yo Ma.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le deuxième sujet de cette dispute musique, la création de Notre Carmen d'après Georges Bizet à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, le collectif berlinois Hauen und Station, on connaît mon allemand formidable, collectif, nouvelle génération de la scène allemande, débarque en France pour la première fois et propose une relecture de Carmen en mode, explique-t-elle, puisque c'est un collectif féminin, en mode Lumpenprolétariat. Adaptation musicale signée Louis Bonnat et Roman Lemberg, direction assurée par ce dernier, mise en scène Franziska Krautfaut. On écoute un extrait. Thank you. Voilà pour cet extrait, j'ai dit d'après Georges Bizet, notre Carmen, Emmanuel Dupuis. As-tu été votre Carmen ? Oula, dites-vous.
Pas vraiment, et bon, je vais être assez clair d'emblée, c'est inutile de faire durer le suspense, je n'ai pas trouvé grand-chose à sauver dans ce spectacle. Bon, pourtant, j'étais au début assez, je vais pas dire séduit, mais en tout cas intrigué par cette tentative de déconstruction du chef-d'œuvre de Bizet. On a au début une Carmen qui ne cherche pas à faire les chanteuses d'opéra, et c'est tant mieux parce qu'elle est comédienne, donc elle chante près des remparts de Séville, mais plutôt à la façon d'une chanteuse de cabaret, ce qui est plutôt heureux. On a des arrangements pour 4-5 musiciens qui sont plutôt bien fichus, mais qui se démarquent intelligemment de la partition de Bizet. Puis on a un toréador qui arrive en jouant les bellâtres et en disant plein de gros mots en anglais, en soirée dans un film des frères Cohen, c'est assez amusant. Mais rapidement, malheureusement, ben, c'est passez-moi l'expression, mais on a un peu l'impression que le spectacle part en live. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui succèdent, qui semblent faire à peu près n'importe quoi. Moi, ça m'a rappelé les happenings des années 70, genre le Grand Magic Circus de Jérôme Savary. Alors, je sais bien que c'est une référence pas très récente, mais c'est peut-être le problème. On est face à des gens qui prétendent inventer quelque chose, renouveler la lecture de l'opéra, mais ils n'inventent rien du tout, ils ne renouvellent rien du tout. Et puis des gens qui prétendent amener un nouveau public à l'opéra, mais je ne vois pas comment on peut amener un nouveau public à l'opéra, alors qu'on a une narration qui est totalement explosé, les scènes se succèdent dans le désordre, souvent sans enchaînement, certains personnages n'existent pas ou peu, par exemple Mikaela, on ne sait pas trop si elle est là, si elle n'est pas là.
Est-ce que Mikaela, c'est ça?
Voilà.
Non mais Carmen sans Mikaela, c'est compliqué.
Elle est un peu fantomatique.
Un beau personnage.
Et le résultat, c'est que si on ne connaît pas l'œuvre, mais on n'y comprend rien. Et le gros souci, c'est que ça dure 3 heures. Mais moi, ce sont 3 heures qui m'ont paru très longues et assez vaines.
Là, du coup, vous réévaluez la Traviata avec Judith Chaplin ? Je vous cherche un peu là.
Par contraste, oui, finalement.
Par contraste.
La Traviata remonte dans mon estime.
Marie Audroux, notre Carmen.
J'étais à côté d'Emmanuel Dupuis et il a dû m'influencer. Non, honnêtement, si je n'avais pas dû parler de ce spectacle ce soir à la dispute, je pense que je ne serais pas restée. J'aurais fait comme la moitié du public, parce qu'il faut quand même le dire, la moitié du public est partie à l'entracte. Effectivement, on a l'impression qu'ils s'amusent beaucoup.
Il paraît que ceux qui restent sont très contents à la fin d'entendre Sylvie Vartan.
Ils sont contents, voilà, et puis ils rigolent beaucoup quand t'es meule de foin, parce qu'il y a une bataille de meule de foin, donc ça, ils aiment bien. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté foutraque qui n'est pas antipathique, parce qu'effectivement, pourquoi pas, moi en plus je suis plutôt partisane,
du foutraque aussi. Mais foutraque n'est bien fait, bien réglé.
Voilà, bien fait, travail. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, c'est ça peut-être
le pire. Peut-être pas assez.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'on est effectivement dans une sorte de zapping permanent, et puis tout est poussé à l'extrême, tout le temps. Donc voilà, il n'y a pas de moment où ça se calme un peu, il n'y a pas de dramaturgie avec des points de dynamique, au contraire des moments. Non, on a vraiment quelque chose, une sorte d'emballement permanent qui finit par créer un sentiment de vide. Donc bon, on ne va pas parler trop de la musique. Moi, j'ai trouvé, je suis d'accord avec Manuel, que les arrangements musicaux sont plutôt bien faits. Et il y avait un excellent altiste que j'ai remarqué, parce que souvent c'est lui qui avait la mélodie, et voilà. Et je crois que c'est aussi un des arrangeurs d'ailleurs, entre parenthèses. Mais les voix, enfin bon, voilà, on peut pas. Quand ça chante façon cabaret ou façon je braille ou façon gitane embrumée ou alcoolisée, je suis plutôt d'accord. Mais quand on veut faire la fleur que tu m'avais jetée, voilà, avec une vraie voix de ténor, et qu'on a une espèce de je sais pas, on sait même pas ce qui se passe.
Là, l'espèce est bienvenue.
Une espèce de glapissement. De glapissement et qui fait qu'on s'accroche à son siège, c'est juste pas possible. Bon. Donc voilà, et d'accord aussi avec Emmanuel pour dire que on a vu des choses comme ça, voilà, il y a fort longtemps, et on est surpris de voir arriver ça sous le signe de la nouveauté.
Bon. Alors peut-être, moi je connais pas l'âge, l'état civil précis des
collectifs. Ils ont l'air plutôt jeunes, on dirait la trentaine, non? Je dirais une petite.
Il y a pas mal de jeunes gens qui pensent réinventer des choses, mais parce qu'ils ignorent ce qui s'est fait parfois avant, dans tous les champs disciplinaires. Je parle pas seulement de cette production, bien au contraire, les arts plastiques n'en manquent pas, le théâtre aussi, enfin bon, la littérature, alors là,
Oui, mais ils sont encouragés, dans leur... S'il y a une ignorance, ils sont encouragés là-dedans, je dirais. Donc c'est ça.
Alors, Emmanuel Giuliani.
Je vais rajouter... Oui, c'est vraiment un grand, grand fatras. Ça m'a fait penser dans ce film merveilleux de Minelli, La femme modèle, où quand Grégory Peck fait visiter son affreux petit appartement tout à la merveilleuse Lorraine Bacall, elle dit que ça fait penser à la boîte à chaussures de son petit frère, où il mettait ses billes, des bouts de ficelle, etc. Ben là, c'est un peu la boîte à chaussures du petit frère. Alors, peut-être si on fouillait beaucoup, on trouverait une bille un peu plus brillante que les autres. Et voilà, mais globalement, c'est en effet l'effet de fatras qui domine. Alors, bon, pour essayer de trouver quand même quelques, non pas circonstances atténuantes, ou peut-être même aggravantes, parce que visiblement... Parce que visiblement, les créateurs de ce spectacle connaissent bien Carmen, ou ont travaillé en tous les cas le thème de Carmen. Parce que les réminiscences musicales sont... elles sont là. Il y a une idée intelligente, je trouve, qui est de mettre la habanera à la fin. Oui. Que le morceau, l'air emblématique de Carmen, en plus quand on
soit
sait
retardé.
Que cette habanera dans l'opéra n'était pas prévue comme ça par Bizet, c'est la chanteuse qui a exigé que, etc. Donc toute l'histoire de la habanera, et le fait de le mettre à la fin comme la conclusion, alors que dans l'opéra
elle est
assez tôt, ça c'est quelque chose d'assez malin. Michaela, ou n'apparaît pas, ou apparaît dans un petit film complètement emberlificoté dans des mantilles blanches qui tiennent autant de la serpillière que de la mantille. Ça, c'est assez marrant, et ce personnage d'oie blanche qui apparaît comme ça, pourquoi pas. Il y a aussi plein de références, parce qu'il y a en même temps des projections filmées à des dessins animés, à des films du cinéma muet ou de l'âge d'or hollywoodien autour de Carmen. Il y a visiblement eu beaucoup de recherches. Mais tout
trop,
ça pour
peut-être.
Ça, pas trop.
Non, parce que vous l'entendez, il y a quand même tellement de choses en même temps.
Mais c'est mis tellement dans le désordre. Voilà, on vous fiche à la figure un puzzle, et toutes les pièces, peut-être même plusieurs puzzles, toutes les pièces dans le désordre, et à vous de reconstituer si vous en avez la patience. Le problème, c'est qu'on n'a pas la patience. Et voilà, et ça, c'est embêtant. Et pour la musique, le jour où j'étais à la première, instrumentalement, c'était... Les arrangements, en effet, sont assez élégants, et comme vous l'avez dit, délicat, mais c'était pas très au point, peut-être un peu le trac, à part la flûtiste. Le premier soir, l'alto, jouait pas toujours très... Le son était très beau, mais il jouait pas toujours très juste. Et puis vocalement, je trouve que ça passe quand ils chantent ensemble, parce que moins, ça fait un petit plus. Mais alors, dès qu'ils sont seuls, là, c'est en effet absolument calamiteux. Non, c'est vraiment très bizarroïde. Et...
Alors que sur le papier, j'avoue, hein, que on l'a vu arriver au programme, on s'est dit, on a envie de faire
puis,
ça.
Et surtout depuis le Carmen de cet été par Tcherniakov à Aix, on se dit que Carmen supporte d'être vraiment malmenée. Bon, enfin, il y a un autre travail,
il y a un monde, visiblement,
une autre
entre les
technique.
Deux.
Et, voilà.
Le fait évidemment. Aussi que les personnages sont démultipliés. La Carmen, elle a 4 ou 5 visages différents, donc 4 ou 5 voix différentes. Ouais. Chaque personnage, finalement, peut devenir un autre. Ouais. Donc ça fait encore un niveau de lecture qui... moi, je défie quiconque ne connaît pas Carmen par cœur de se retrouver et même de... Et c'est vrai que pour nous, qui quand même, bon, évidemment, connaissons bien l'œuvre, il y avait un petit travail pas inintéressant, qui était justement de repérage, de dire, tiens, comment ils vont goupiller leur truc. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel que la banera à la fin, voilà, ça ouvre sur la liberté, c'est quelque chose d'un peu plus poétique. Et mais tout ce qui nous mène il y a 3 heures effectivement pratiquement, c'est juste, il y a des moments insupportables, quoi, vraiment.
Pépiment, Boris Pinot, avant de vous redonner la parole, Emmanuel Dupuis.
Le curieux des arts, du coup, vous écoutez craindre pire, mais essaiera de rester au moins jusqu'à l'entracte.
Ah, c'est tout.
Il est courageux.
Bon, vous vouliez ajouter, Emmanuel Dupuis.
Oui, non, je veux simplement confirmer ce qui a été dit précédemment. Effectivement, c'est un sentiment de confusion qui domine. Et je trouve que les vidéos, effectivement, dont parlait Emmanuel, ajoutent à cette confusion, parce que c'est encore un niveau de lecture différent. Il y a beaucoup d'agitation sur scène, et en plus, ce niveau de lecture avec les vidéos qui ajoute à la confusion au lieu d'éclairer l'action.
En fait, je pense qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils veulent dire. On ne comprend pas du tout. Voilà, ils veulent quelle est leur vision de Carmen finalement
On ne sait pas.
À la fin, on sort de là en se disant mais qu'est-ce qu'on a vu
Ils l'ont dit, c'est notre Carmen, donc c'est la leur.
Oui, Carmen, c'est pas la nôtre. Du coup, c'est pas la nôtre, c'est vraiment la leur.
Je fais une blague assez mauvaise, Marion.
Surtout que dans le télénote de programme, on revient et c'est tout à fait vrai, mais là aussi, ils n'inventent rien. La liberté, la mort, l'irréductibilité, très bien. Mais voilà, ça c'est. On n'en a pas de preuves supplémentaires parce que la liberté, ce n'est pas en effet le n'importe quoi.
Oui. Mariotte disait tout à l'heure qu'on a l'impression qu'ils se font plaisir, mais je pense que c'est peut-être un petit peu ça leur défaut. C'est que, et ça s'appelle effectivement notre Carmen, mais c'est la leur. Mais ça serait bien que ce soit aussi celle du public. Mais visiblement, pour l'instant, ils n'en ont pas envie ou ils ne savent pas. Quoi, je ne sais pas, mais bon, ça mérite de mûrir.
Bon.
Il paraît qu'ils vont travailler sur Fidelio.
Vous avez les infos.
Suivre.
Donc,
pour quelle scène ? Pour quelle scène ?
En Allemagne, je crois.
À Munich ? Non, mais je dis peut-être une sottise, à vérifier.
Bon, à vérifier. Notre Carmen, alors, si on reste jusqu'au bout, on a la Banera et Sylvie Vartan. Je ne sais pas comment ça se marrer, tout ça, mais c'est la fin, ça ? Oui, ça vous fait sourire, ça.
C'est les saluts. Ben oui, parce que je suis rentré chez moi en chantant ça, finalement.
Ah ben voilà où ils veulent en venir, c'est ça.
Voilà.
Notre Carmen, c'est Sylvie Vartan.
L'amour, c'est comme une cigarette.
Voilà. Bon, très bien. Voilà. Notre Carmen, d'après Bizet, je crois que je ne redirai pas le nom du collectif, vous m'en excuserez, adaptation direction musicale Roman Lemberg, mise en scène Francesca Kronfaut, c'est jusqu'au 19 novembre à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission du mardi soir, dispute consacrée à la musique avec l'intégrale des trios pour piano de Brahms gravés par Yo-Yo Ma avec Emmanuel Ax au piano et Leonidas Kavakos au violon. Deux CD, cette fois je me trompe pas, c'est assez simple. Deux CD sortis chez Sony Classical, on va écouter l'Allegro du trio numéro 1. Thank you. bon, on peut pas le garder en entier, cet Allegro. Enfin, on pourrait, mais j'aimerais quand même vous entendre parler de ces trios de Brahms pour piano. Marie Audroux, notre pianiste chérie.
Oh. Non, mais donc là, on est quand même dans du très haut de gamme, sans jeu de mots, hein, puisque Yo-Yo Ma, Leonidas Kavakos et Emmanuel Axe.
Ouais, et c'est quoi le jeu de mots, en fait?
Non, c'est haut de gamme.
Gamme.
Ah, la gamme musicale.
Non,
très haut de Brahms, j'aurais compris, mais...
Non, très haut de Brahms, non, c'est la saison du Brahms, mais bon, c'est pas tout à fait encore.
C'est passé, non, la saison du Brahms?
Non, c'est en ce moment.
Ah,
je sais pas si...
Vous avez des informations?
Si je vais réussir à...
Vous étiez en Sologne, là, ce week-end?
Non, mais on les entend d'ici. Non, mais...
Vous avez des acouphènes, Marie-Aude.
Donc, il y a donc des trios comme ça, qui sont des trios de grands solistes. Hein. Il y en a, voilà, des mythiques, hein, les Heifetz, Rubinstein, Piatigorsky, et puis Stern, Leonard Rose et Istomin. Donc, on a quand même... Alors, est-ce qu'on est exactement à ce niveau-là sur le plan, comment dirais-je, évidemment, de l'instrument, on est dans quelque chose de tout à fait magnifique et maîtrisé. Pour ma part, je trouve qu'il y a un petit peu de retenue et que ça manque parfois de tripes, si je peux dire les choses comme ça. Parce que Brahms, surtout ses trios avec piano, il y a quand même quelque chose, on est dans une musique de l'épanchement, de la danse, du sentiment, et voire du sentimental. Mmh. Et je pense que c'est ces trois musiciens qui sont des musiciens de très bon goût, je dirais, peut-être ensemble se corsettent-ils encore davantage. Et pour ma part, par exemple, ce que nous venons d'entendre, j'aime des versions qui sont où les
un
phrases
peu plus débraillées.
Voilà, et où les phrases sont plus portées, poussées, etc. Voilà, donc c'est un petit peu la... Bon, le piano pour moi est magistral, parce que, et je, de bout en bout, hein, je pense que c'est vraiment lui qui, c'est Axe qui est dans l'Axe, précisément, si je peux. Bon, non, mais là, c'est de très, très mauvais jeu de mots. Non, mais
ça, non, j'attends pour Kavakos, hein. Kavakos, ce que vous en retrouverez comme blague.
J'ai pas cherché. Non, mais là, effectivement, je trouve que le piano est vraiment le dénominateur commun de toute cette musique, et avec une finesse, voilà. Mais, voilà, pour ma part, je suis pas complètement... Voilà, c'est très beau, mais je ne suis pas convaincue d'être dans une version qui...
Dans l'excellence,
qui restera, qui va surpasser, ou en tout cas s'inscrire vraiment dans la discographie.
Emmanuel Giuliani, votre sentiment sur ce disque consacré à Brahms?
Oui, je partage tout à fait l'avis de Marie-Aude. C'est vrai que c'est très très beau, très un splendide produit de studio avec une belle prise de son, et puis véritablement, c'est vrai que c'est trois solistes, mais c'est ils ont une manière de jouer ensemble. On l'a entendu dans ce premier extrait qui est toujours très saisissant, c'est-à-dire le violoncelle commence, mais comme il commence dans le haut de sa tessiture, et qu'on sait que Brahms aime faire jouer le violon dans le bas de la tessiture, tant que le violon n'est pas entré, on peut se poser la question, est-ce un violon qui joue grave ou est-ce... Voilà, donc ça, il le restitue très bien, il y a un très beau rapport sonore entre les instrumentistes, mais c'est vrai que le côté enflammé, le côté ces épanchements hongrois par moment, qu'il y a tellement dans cette musique, les déséquilibres rythmiques, comme quand on est enfant et qu'on saute sur un pied, puis on attend le moment où on va tomber pour mettre le second pied. On a tout ça dans cette musique, et ça, on ne l'a pas tout à fait assez. C'est un petit peu trop sage, un peu trop dans les clous, et on aimerait que ça sorte un peu de ce cadre-là. Alors, c'est très beau dans tous les moments épurés, et Dieu sait qu'il y en a aussi, mais justement, par contraste, on aimerait qu'après, il y ait plus de fief, plus d'élan, que ça avance. Voilà.
On est passé d'un trop grand désordre avec notre Carmen à un disque trop propre. Non, ouais. C'est pas la même chose. C'est pour la transition tout aussi malhabile. Emmanuel Dupuis.
Oui, je trouve mes deux concerts un petit peu sévères quand même.
Très bien. Parce que c'est... Dites-leur.
Voilà, je vous le dis.
on l'entend.
Parce que bon, pour moi c'est une version qui va rester et qui se compare tout à fait à la version de d'Isaac Stern, Janis Stomin et Leonard Rose. C'est vraiment de la même
ça
veine.
Ça chante moins, non?
Je suis pas tout à fait d'accord. On a quand même ici des musiciens qui chantent. Par exemple, dans le troisième mouvement du deuxième trio, la façon dont le thème central est énoncé à pleine voix, il y a même quelque chose de presque choral. théâtrale dans leur façon de faire. C'est, oui, il n'y a pas ce côté, j'entends bien ce côté déboutonné qu'on peut chercher et entendre dans d'autres versions, mais il y a quand même une très grande sensibilité, un sens du dialogue et du partage permanent. Et moi, j'ai quand même été assez touché aussi par la variété des sentiments, de sentiments très opposés. Et ça, c'est vraiment l'essence de Brahms. Et puis, on a des... Surtout des musiciens qui ont les idées claires, qui savent où ils vont. Parce que la musique de Brahms, c'est une musique qui peut parfois paraître un petit peu filandreuse. Mais là, ce n'est pas le cas. Il nous raconte une histoire, il nous embarque avec eux. Et quand vous dites que ça n'avance pas, je ne suis pas d'accord. Je trouve au contraire qu'il y a un vrai sens de l'architecture et du mouvement.
Je trouve que ça manque de jouissance.
Marie Audreau, enfin, pas tout à fait d'accord.
Non, ça manque de jouissance. Je trouve qu'effectivement, tout ce que dit Manuel est vrai. Il y a l'extrême intelligence, l'extrême sensibilité, le fait de savoir s'écouter et de savoir apparier ses propres les timbres, justement, entre le violon et le violoncelle. Ça, c'est très bien fait, c'est vrai, mais je trouve qu'il manque, il y a dans cette musique quelque chose de, une veine populaire, il y a quelque chose de très qui parle vraiment au corps, à la danse, à tout ce qui peut être la joie de la vie. On sait que Brahms était un bon vivant, on sait que toute cette musique, elle porte ça, elle charrie ça, et je trouve qu'il y a un petit côté assez qui moi me fait dire que peut-être, alors on sait que Axe et Yo-Yo Ma sont des partenaires habituels, Cavacos est un petit peu arrivé, enfin est arrivé avec tout le talent qu'évidemment qu'on lui sait, mais peut-être c'est encore un ensemble qui manque de vivre ensemble, je ne sais pas comment dire les choses, et tout ce que, encore une fois, tout ce que dit Emmanuel est vrai, mais il y a quand même cette chose fondamentale qui pour moi manque et qui fait que c'est pas mon Brahms, c'est pas notre Brahms, si je puis permettre de parodier, voilà.
Oui, il y a peut-être un accès d'élégance, mais en même temps, moi, vous parlez de la veine populaire, mais ce côté rhapsodique, moi, je l'entends. Alors, effectivement, peut-être fait avec beaucoup d'élégance, mais par exemple, dans le deuxième mouvement du premier trio, effectivement, on entend quelque chose de à la fois d'assez rugueux, mais effectivement toujours élégant. Et c'est peut-être ça, par ça que...
Il n'y a pas la voix. La voix du cœur, du ventre, il n'y a pas ça.
Mais enfin, on se situe quand même à un niveau instrumental qui est...
Oui, je préférerais moins de perfection instrumentale et quelque chose qui soit plus habité,
plus
vivant.
C'est-à-dire, moi, l'impression que j'ai, c'est en effet que c'est, comme vous le dites, c'est parfait instrumentalement, c'est vraiment pensé ensemble, mais on se dit, ce disque, il faudrait maintenant le refaire, enfin peut-être comme au cinéma on fait les prises, c'est parfait, maintenant tout est en place, c'est génial, on a la même idée, les sons vont parfaitement ensemble, etc. Et ben maintenant on le refait, alors on va revenir à notre Carmen, comme vous disiez Arnaud, maintenant on le refait pour nous, pour le public, pour la musique, pour Brahms, et on y va. Et là, ce serait génial. Mais voilà, il
manque la productrice Emmanuelle Giuliani en studio avec eux, c'est ça.
Certainement.
C'est ça, il faut que vous les preniez en main, ces petits jeunes.
Voilà. Et un petit coup de vin du Rhin par-dessus pour...
Ils enregistrent dans le Massachusetts, alors le vin du Rhin, ça va faire un certain trajet, Emmanuel Dupuis.
Oui, effectivement, ça n'invalide pas du tout les grandes versions... de historique qu'on connaît, on parlait effectivement de Rose, Stern et Istomin, mais il ne faut pas non plus se laisser intimider par ces modèles, et voilà, il faut continuer à enregistrer cette musique, c'est aujourd'hui une proposition qui est tout à fait recevable et qu'il faut écouter, qu'il faut après pour se faire son avis, mais on est quand même, bon, malgré les réserves que l'on peut avoir, on est quand même un niveau de perfection stylistique qui est exceptionnelle.
Et dire un mot peut-être, pardon, j'en profite qu'il nous reste 2-3 minutes, de cette intégrale des trios avec piano, il y en a 3, donc l'intégrale est quand même, nécessite certes 2 CD, mais pour vous, elle occupe quelle place, un peu rapidement, dans la musique de chambre, ces compositions de Brahms? Emmanuel Giuliani à la question.
D'abord, il en a composé un premier, puis après un temps assez long, c'est écoulé avant le deuxième, puis le dernier. Il a beaucoup remanié le premier. C'est du très, 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 très grand Brahms. Mais qu'est-ce qui n'est pas du très grand Brahms dans sa musique de chambre? Peut-être certains quatuors moins extraordinaires. Enfin, quand même, on retrouve, et surtout on retrouve tous ces paysages qu'on a aussi dans les symphonies, qu'on a dans les sublimes sextuors, qui sont vraiment parmi ce qu'il y a de plus beau qu'il a composé. Évidemment, le quintet, qui est, les sonates, piano-violoncelle et piano-violon. Et surtout, c'est ça, c'est cette variété entre des moments qui sont quand même purement hérités de tout le classicisme viennois, Beethoven, les transparences de Mendelssohn et jusqu'à Brahms, et qui annonce déjà après Mahler, etc. Et puis, cette veine populaire dont a parlé Mario, des moments de dépression absolue, et puis au contraire, la lumière qui vient, la manière dont on imagine qu'il va terminer en mineur, et ben non, il vous met un grand accord majeur, et ça y est, le soleil se met à luire. Enfin, on a quand même dans ces œuvres qui sont, à part le premier, relativement courtes, le troisième, qui est peut-être le plus génial, même si les deux autres sont très très beaux, c'est quoi? C'est 20 minutes de musique et on fait le tour du monde. Mmh. Donc non, ce sont de très 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 grandes œuvres. Et si on a le temps d'en écouter qu'un, on commence par le troisième et après on se dit que il a bien fait de faire les deux autres.
J'ai envie de dire que c'est une forme qui est quand même plutôt réussie aux compositeurs, parce que qu'on prenne Beethoven ou Schubert, on n'a que des chefs-d'œuvre avec le trio et le piano.
Bon, on ne se trompe pas en achetant donc, en l'occurrence, ces trios avec piano de Brahms interprétés par Yo-Yo Ma, Emmanuel Axe et Leonidas Kavakos. C'est sorti chez Sony Classical. Toujours dur à dire ça. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Grégoire Di Fiore nous a rejoint d'abord pour nous rappeler la question du jeu d'hier au soir en enchaînant avec sa réponse. Grégoire.
Avec quel dessinateur Alexandro Jodorowsky a créé une bande dessinée? Et la réponse était Moebius.
Ce soir, nous vous envoyons des invitations pour le festival du film d'histoire de Pessac qui va se tenir du 20 au 27 novembre. Quelle est la question?
Quel réalisateur anglais a été accusé en septembre d'avoir tenu des propos révisionnistes?
Une liste ou comment ça se passe? Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et vous abonner tout à fait gratuitement là au podcast de la dispute. C'est un cadeau. Vous pouvez préparer vos commentaires pour la dispute de demain, dès à présent sur la page Facebook La Dispute FC ou pendant le direct sur le compte Twitter Dispute FC. Demain à 19h, donc une dispute art plastique. Nous serons en compagnie de Corinne Rondeau, Florian Guettet et Stéphane Coréard. À notre programme, à tout un voyage dans l'histoire, l'art du pastel de Degas Redon, c'est au Petit Palais, puis Picasso 1932, année érotique au musée Picasso, et les pièces rapportées de Théo Mercier au musée de l'Homme.